VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par un dossier sur la crise au Zimbabwe. Suite à la démission du président Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa sera investi à la tête du pays ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé la radio d'État. L'ancien vice-président est attendu aujourd'hui à Harare, où il atterrira à la base militaire de Maniame. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Emmerson Mnangagwa, 75 ans, dimanche dernier, a été bombardé président du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et candidat à l'élection présidentielle de 2018. En exil depuis son éviction le 6 novembre, il devrait prêter serment en tant que président pour une période de 90 jours, a déclaré le porte-parole de la ZANU-PF, Simon Kaya Moyo. La nomination de celui que les Zimbabwéens surnomment le crocodile devrait être officialisée aujourd'hui par le président du Parlement. Sans attendre la prestation de serment d'Emmerson Mnangagwa, l'opposition a demandé des négociations pour démocratiser le pays. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a salué une opportunité historique pour les Zimbabwéens d'en finir avec l'isolement de leur pays, souhaitant la mise en place de réformes économiques et politiques. En présentant sa démission sous la pression de l'armée, de son propre parti et de la rue, Robert Mugabe a mis un point final à 37 ans de règne sans partage.
Adulé à son arrivée à la tête du Zimbabwe indépendant en 1980, Robert Mugabe était, avant d'être poussé à la démission hier, vilipendé par ses détracteurs et considéré comme un autocrate qui a ruiné une économie jadis prospère. Robert Mugabe, de libérateur à oppresseur, son portrait avec Jacques Aristide.
Pour ses partisans et les anciens combattants de la lutte contre le pouvoir colonial, Robert Mugabe a toujours su rester un dirigeant révolutionnaire et une icône. S'il était fustigé par les Occidentaux, disent-ils, c'est parce qu'il refusait d'être à leur solde. Il est emprisonné pendant 10 ans au milieu des années 1960 parce qu'il combattait la colonisation britannique à l'époque de la Rhodésie blanche. En 1980, année de l'indépendance, Robert Mugabe est élu Premier ministre. Il prêche alors, plus de 10 ans avant Nelson Mandela, dans l'Afrique du Sud voisine, la réconciliation entre noirs et blancs. 7 ans plus tard, à la faveur d'une modification de la Constitution, il s'installe comme président. Au milieu des années 1980, une rébellion dans la province du Matabeleland est réprimée dans le sang. Robert Mugabe en profite pour s'en prendre directement à son ancien allié de la lutte révolutionnaire, Joshua Nkomo. En 2000, il se lance dans une offensive tous azimuts, soutient l'occupation violente des fermes blanches, virulente campagne contre l'homosexualité, sermon féroce contre les complots de toutes sortes qui le menaceraient. L'économie sombre dans le chaos et subit l'inflation la plus élevée au monde. Le chômage touche 80% de la population. Il obtient un nouveau mandat de 5 ans en mars 2008, au terme d'un scrutin marqué par les violences et le retrait de son rival de longue date, Morgan Tsvangirai. Sur un plan personnel, Robert Mugabe est un ascète élevé par les jésuites qui ne boit jamais d'alcool. Il est marié depuis 1995 à son ex-secrétaire Grace Maroufou, qu'il a épousée 3 ans après la mort de sa première femme d'origine ghanéenne, Sally. Il est père de 3 enfants. Grace Mugabe, 52 ans, était considéré ces derniers temps comme la personnalité la mieux placée pour lui succéder jusqu'à l'intervention de l'armée.
L'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, est maintenant bien placé pour accéder à la magistrature suprême au Zimbabwe. Quelle lecture faire de cette révolution de palais? Et faut-il s'attendre réellement à un avenir meilleur pour le Zimbabwe? Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud le professeur André Thomashausen de l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA.
Ça, ce sera la grande question, la question que se posent les organisations de la société civile, la presse, les intellectuels, parce que, évidemment, les grands généraux, ils faisaient toujours partie du clan, de l'élite très privilégiée du pouvoir. Mais je pense que, spécialement M. Mnangagwa, qui est un politicien avec beaucoup d'expérience, va reconnaître la nécessité d'un renouvellement du mandat du peuple, la nécessité d'une inclusion démocratique, c'est-à-dire c'est-à-dire en termes concrets, la nécessité d'élections, d'élections libres, parce que les dernières élections au Zimbabwe n'étaient pas du tout libres, pour que le gouvernement, à partir de maintenant, même déjà pendant la transition, pourrait avoir l'autorité et la légitimité d'adopter des réformes et de mener le pays en avant.
Mais Emmerson Mnangagwa est également comptable de la situation actuelle parce qu'il co-gérait avec Mugabe.
Absolument. C'est lui qui est le grand coupable de la falsification et la dégénération des élections de 2008. Mais c'est un technocrate du pouvoir. C'est un homme qui a une réputation d'être un réaliste, surtout très intelligent. Je soupçonne aussi qu'il a l'appui de la Chine populaire, qui est le plus grand investisseur au Zimbabwe. Et ça lui permettra de renégocier les conditions financières et économiques dans les prochains 6 mois, ce qui sera essentiel pour maintenir la paix et l'ordre public.
Le professeur André Thomas Hausen, expert en droit constitutionnel, joint à Pretoria, en Afrique du Sud.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Somalie, une frappe américaine sur un camp d'entraînement des islamistes Shebab a tué plus de 100 combattants, selon l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. L'opération a eu lieu hier, selon le communiqué d'AFRICOM, qui précise que le bombardement a eu lieu à quelques 200 km au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie et leurs drones ont ciblé les Shebab et les djihadistes du groupe État islamique ces dernières semaines. Au Mali, une sortie du commandant de l'opération française Barkhane, le général de brigade Bruno Guibert, fait beaucoup de bruit. Selon la presse à Bamako, le général Guibert a mis en doute la bonne foi des groupes armés signataires de l'accord de paix, accusant ces derniers de signer des accords qu'ils n'appliquent pas sur le terrain. Bagassi Koura a recueilli la réaction de l'activiste malien Tibiri Nemba, joint à Bamako.
Nous savons, il y a très fort longtemps de cela, et nous avons tout le temps dénoncé ça. Ces groupes terroristes que les Européens ou la France appellent les groupes armés, autant quand ils sont à Kidal, ils sont emmenés là, à la frontière Niger-Mali, ils sont terroristes.
Oui, mais il doit y avoir quand même parmi tous ces gens des groupes qui sont assez sincères, qui ont envie d'aller à la paix.
Les seuls groupes sincères parmi ces gens, c'est Gatia. Ils ne veulent que l'unité du Mali. Sur tous ces groupes qui sont appelés à Zawad par-ci par-là, ce sont des groupes terroristes. Ils viennent signer des contrats ici à Bamako, on les donne l'argent. Après, cet argent-là est utilisé pour acheter des armes encore contre l'armée malienne.
Et pourquoi Bamako n'a pas réagi? Il a fallu un général français pour le dire publiquement.
Bamako est très faible. Bamako est affaibli carrément par la France. C'est la France qui refuse catégoriquement la présence des militaires maliens à Kidal, dans ces parties-là. On dirait que la France a d'autres agendas au Mali, au nord du pays, qui est caché, mais nous sommes là-dessus, nous sommes en train de découvrir petit à petit la vraie face de la France.
Oui, mais c'est la France aussi qui a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako.
Oui, la France a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako, il faut le dire, c'est vrai, mais la France a fait ça pour ses propres intérêts parce qu'il y avait des Français ici.
Et comment vous voyez cet accord de paix dans ce contexte-là?
Moi, je dirais, ce n'est pas un accord de paix, parce que c'est un accord qui est signé entre le gouvernement et le groupe armé ou le groupe terroriste. L'accord de paix que nous voulons, c'est un accord où tout le peuple malien sera concerné.
Tibiri Demba à Bamako, au Mali. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées dans des attaques menées contre des villages d'éleveurs Peul dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la police. La milice des agriculteurs de l'ethnie chrétienne Bashama a attaqué lundi les villages de Kikan, Kodomoun, Chafaran et Ketoral dans la région de Nouman, tuant principalement des femmes et des enfants. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar. Actualité américaine, le groupe pétrolier chinois CEFC China Energy a démenti être impliqué dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda, ciblée par la justice aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi l'inculpation de Cheikh Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et de l'ex-responsable politique de Hong Kong, Chi Ping, Patrick Ho. Ils sont accusés d'avoir corrompu des hauts responsables au Tchad et en Ouganda pour obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise à coût de pots de vin représentant plusieurs millions de dollars, selon le communiqué du ministère américain. Et pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a donné des assurances hier à son homologue américain Donald Trump, selon lesquelles il œuvrait en faveur d'un règlement politique à long terme en Syrie. Des propos intervenus après une rencontre du leader russe avec le leader syrien Bachar al-Assad à la veille d'un sommet avec l'Iran et la Turquie. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oui, oui.